Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe du vendredi. Salut à tous les cinq.
Bonsoir ma bête.
Avant de démarrer cette émission, une jolie nouvelle. On a appris ce matin la naissance d'un petit garçon, Pio, dont la maman s'appelle Émilie Tralenguyen. Alors bienvenue à Pio, bravo à ses parents et à sa grande sœur. Voilà, on est très heureux et toutes nos pensées les plus affectueuses pour cette si jolie famille. Marion, votre choix de l'actu du jour.
Eh bien, justement, est-ce qu'il mange des enfants? Qui donc? Jean-Luc Mélenchon.
La transition de l'année.
J'embrasse Émilie au passage. Jean-Luc Mélenchon est-il victime d'une tentative de diabolisation, comme l'a titré ce matin Libération? On en parle avec notre invité.
Notre invité, le philosophe et écrivain Alain Finkielkraut. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de votre présence ce soir pour commenter avec nous l'actualité. À la veille, quasiment, du premier tour de ces élections législatives. Mohamed, votre story ce soir.
Quelle période de stress pour certains étudiants en français. Ils sont 936 000 à avoir reçu leur réponse de Parcoursup. Un stress aussi pour certains parents. Hein, on n'en dira pas plus. En tout cas, il y en a un qui n'est pas du tout stressé. C'est Jonathan Kikanga. Il a vu ses 25 vœux exaucés par Parcoursup. Une trajectoire dingue. Et ce qui est encore plus fou, c'est son parcours. Il est arrivé en France il y a 3 ans. Je vous raconte son histoire.
Patrick, votre édito ce soir.
La commission d'enquête de la Chambre des représentants était réunie hier soir à Washington à l'heure du prime time de télévision américaine pour livrer ses premières conclusions sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 avec des images et des témoignages inédits.
On en parle avec le professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis, Corentin Sélin, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mathieu, votre 5 sur 5 ?
Un tweet en Espagne, quelques mots à la radio française, et ça y est, le monde du foot s'enflamme. Est-ce que Zinedine Zidane va signer pour entraîner le Paris Saint-Germain ? Je n'ai pas la réponse à la question, mais on va en parler quand même.
Mais ça Mohamed, a notamment... Mohamed, vous a la réponse à la question.
Peut-être.
Et peut-être.
Je voulais en parler tout à l'heure.
Réponse dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Pierre, votre œil ce soir.
Au dernier festival de Cannes, beaucoup des festivaliers ont découvert un film sorti il y a 50 ans, La maman et la putain de Jean Eustache. Le film était sorti en 73. Après, il a été très accueilli de façon très bousculée, mais il avait eu le grand prix du spécial du jury. Et puis après, bloqué pour des problème de droit, le film ressort enfin, brillamment restauré. Il est en salle depuis mercredi. Je vous dirai pourquoi. Il faut vraiment le voir si vous aimez un tant soit peu le cinéma.
Et on aime le cinéma, on aime aussi le Portugal. C'est aujourd'hui la fête nationale du Portugal. Tous les 10 juin, le Portugal est à l'honneur. Et il est à l'honneur ce soir dans C'est à vous avec nos invités autour d'un dîner spécial Portugal. Dîner réalisé ce soir par un chef portugais, Rui Cardoso, chef de cuisine en Vendée. C'est de la morue ce soir au menu ou pas?
On va rester sur une valeur sûre ce soir, une brandade de morue à la portugaise.
Et Pierre est ravi parce que vous adorez la morue.
J'ai une passion pour la brandade de morue, singulièrement à la portugaise.
Ah ben voilà, et ben rendez-vous après 20h pour ce dîner portugais, J-2 avant les élections qui vont décider l'avenir politique de la France pour 5 ans. Mais les électeurs se déplaceront-ils pour les décider? Chaque camp jette ses dernières forces dans la bataille.
La question du jour, et vous, avez-vous prévu d'aller voter dimanche?
Beaucoup ont jugé que cette campagne avait été morne, anesthésiée.
Un électeur sur deux, peut-être même un peu plus, a l'intention de rester à la maison.
Je forme le vœu que tout le monde s'intéresse à l'élection dimanche.
Parce que la République qui nous protège, aujourd'hui, c'est à nous de la protéger et de la choisir.
Mais il faut voter.
On ne peut pas laisser l'Assemblée nationale à une majorité absolue qui sera piétinée par ce gouvernement et des extrêmes qui n'attendent qu'une chose, c'est le chaos ou de détruire la République.
Ce que propose l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est de revenir sur tout ce qui a permis à la France d'être plus forte et de tenir face aux crises passées.
À chaque fois qu'Emmanuel Macron dit quelque chose ou fait quelque chose,
il a toujours des arrière-pensées électoralistes.
Nous avons évidemment un projet très clair pour évidemment réconcilier les Français avec la France aussi, avec la politique.
Oui, je crains en effet que peut-être pris par une sorte de hubris, la majorité macroniste actuelle se figure que tout est possible, y compris de refuser le résultat des élections.
Jean-Luc Mélenchon a zéro chance d'être Premier ministre. Zéro. Voilà. Je l'ai dit, il a moins de chances d'être Premier ministre que moi de gagner le loto sans jouer.
Alain Finkielkraut, est-ce que vous allez voter déjà dimanche?
Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais je pense que oui. Je ne veux pas effectivement rejoindre la vague des abstentionnistes.
Mais pour quelle raison vous hésitez?
Je vais faire un effort sur moi-même parce que vous m'avez regardé d'un air fâché quand j'ai dit que je ne savais pas, donc je vais vous obéir.
Non, j'étais surprise et je me demandais pour quelle raison vous hésitiez, parce qu'effectivement, on annonce une menace d'abstention record sur les élections législatives, donc peut-être que vos hésitations vont rejoindre les hésitations de certains électeurs qui nous regardent ce soir.
Il y avait une expression qui faisait florès à une époque, et d'ailleurs encore dans les dernières élections présidentielles, faire barrage. Il fallait faire barrage à l'extrême droite. Je pense aujourd'hui, et j'espère pouvoir m'expliquer, qu'il faut aussi faire barrage à la NUPES, c'est-à-dire Union de la gauche, qui pour la première fois se fait sous la direction de la gauche radicale. Auparavant, c'était du Front populaire à la gauche plurielle, c'était la gauche modérée qui dominait. Et là... diabolise-t-on Mélenchon? Non, Mélenchon n'a besoin de personne. Il se diabolise tout seul. Sa radicalité, il faut l'interroger. Elle a deux volets. Le premier volet est anticapitaliste. Il risque malheureusement, son programme, s'il est appliqué, risque de se retourner contre ses supposés bénéficiaires. Augmentation massive des salaires, augmentation des impôts pour
les plus
favorisés, blocage des prix. Qu'est-ce que cela entraînera? Une évasion fiscale, les délocalisations et des licenciements. Donc, les plus modestes seront frappés. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est l'autre volet. L'autre volet, et là, on voit la main du diable, l'autre volet... si vous voulez, c'est l'appel à ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la nouvelle France. Il était à Épinay et il a dit ceci, je n'ai pas peur de le dire, ce que vous voyez dans ces quartiers, c'est la nouvelle France, celle sur laquelle nous nous appuierons pour construire et faire tout ce qu'il y a à faire dans ce pays, demain, tout changer. La nouvelle France, les quartiers, autrement dit, non seulement Jean-Luc Mélenchon croit au grand remplacement, mais il mise sur le grand remplacement pour accéder au pouvoir un jour ou l'autre. Le changement démographique, c'est sa carte. Et il va très loin dans la démagogie. Dans son programme, il y a l'abrogation immédiate de la loi de défense de la République contre la loi séparatisme. C'est très intéressant. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème d'islamisme en France. Le seul problème, c'est l'islamophobie. Et si quelquefois des musulmans stigmatisés, discriminés, se radicalisent, c'est la faute de la France islamophobe. C'est pourquoi, je le répète, la France insoumise, c'est le nom que se donne la France soumise à l'islamisme.
C'est pour ça que vous dites que cette gauche-là est devenue clientéliste, mais il faudra plus que les quartiers ou les jeunes des quartiers pour permettre à Jean-Luc Mélenchon d'accéder au pouvoir et de potentiellement arriver à Matignon.
Il fait le calcul qui était celui de la fondation Terra Nova, c'est-à-dire les bobos, les femmes pensent qu'elles sont avec lui, et les gens des quartiers. Contre la France périphérique. Et ce calcul, il le fait et le refait parce qu'il a joué la carte des Gilets jaunes, mais sans aucun succès. La France des Gilets jaunes, la France périphérique, selon l'expression de Christophe Guillouy, ne suit pas Mélenchon. Donc c'est son calcul. Et il se dit qu'avec le changement démographique, il va y arriver. Mais il y a pire encore. Voilà, on dit on diabolise Mélenchon. Mais quand même, c'est lui qui a écrit La police tue. la police tue. Et c'est très intéressant. Alors, on l'a dit, c'était pas simplement des policiers dans des circonstances particulières, après un refus d'obtempérer. C'est la police tout entière qui tue. Et surtout, cela signifie que, avec cette formule, avec cette expression, il dit qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un geste réactif, d'une réaction disproportionnée peut-être à un refus d'obtempérer. Il s'agit d'un acte délibéré, d'un meurtre, de meurtre et d'assassinat. Comme si pour lui, si vous voulez, la violence policière s'intégrait dans un dispositif de persécution et d'élimination. Et alors là, c'est très grave parce que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise introduisent dans la démocratie une pensée, une logique antidémocratique. Qu'est-ce que la démocratie ? C'est le régime le plus bavard de tous, disait Hannah Arendt. En effet, tout est fondé sur la parole, la délibération, l'échange des arguments, la conversation civique. Pour Jean-Luc Mélenchon, le modèle, c'est la guerre des que les oppresseurs font aux opprimés, et les opprimés ne peuvent répondre eux-mêmes que par la révolte et par l'insurrection. Les musulmans, donc, pour lui, sont tous dans les camps des opprimés. Il n'y a pas de problème de l'islamisme, il n'y a qu'un problème de l'islamophobie. Et j'ajoute une chose, si vous me le permettez. Les juifs sont passés dans le mauvais camp. Les juifs ne sont plus des opprimés, ils sont des professeurs, des oppresseurs, comme l'atteste leur attachement à Israël, État colonialiste, État raciste, etc. D'où l'attitude de la France insoumise vis-à-vis de Jérémy Corbyn. Jérémy Corbyn, quand il a été mis en demeure d'en finir avec l'antisémitisme dans son parti, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé les pressions inadmissibles de l'extrême droite israélienne et du grand rabbinat, et il a dit qu'avec lui, ça ne se passerait pas comme ça.
C'était avant de
génuflexion devant le communautarisme du crime.
C'était avant l'enquête qui a été menée par le Parti travailliste britannique qui a abouti à l'éviction de Jérémy Corbyn.
Oui.
Les propos de Mélenchon que vous dénoncez.
C'est
vrai que Corbyn est venu en soutien à Daniel Simonet
de
la France insoumise dans le 20e arrondissement de Paris, mais il n'y a pas eu dernièrement de soutien de Corbyn de la part de Mélenchon.
Il y a eu un soutien massif, enfin, de la France insoumise à Abou Hafs, quand Abou Hafs a été
candidat de la France insoumise aux législatives.
Oui, c'était Abou Hafs, donc ce jeune et pétulant journaliste qui devait être candidat aux législatives. Quand on a exhumé un certain nombre de tweets, et il y en avait un, par exemple, qui d'ailleurs me concernait, parce que Benoît Hamon, après l'agression, la petite attaque que j'avais subi de la part de certains gilets jaunes, avait dit, moi je suis en désaccord total avec Alain Finkielkraut, ça, il n'avait pas manqué de le souligner, mais là-dessus, il a dit son émoi devant l'attaque dont j'étais victime. Et réponse de Taha Abou Hafs, oui c'est normal, c'est bientôt le dîner du CRIF, et tu veux pas rater les petits fours. Donc voilà, et ça, Jean-Luc Mélenchon a dit, nous étions la meute raciste contre Taha Abou Hafs, et il s'est résolu à le débrancher, si je veux dire, parce qu'il a été accusé d'agression sexuelle. Mais tout ça est très intéressant, et je vais persévérer, Patrick Cohen, vous allez être peut-être furieux contre moi, mais je pense qu'aujourd'hui, la France insoumise est la terre d'asile du nouvel antisémitisme. Et j'en ai une autre preuve, c'est la haine invraisemblable de ce mouvement pour Manuel Valls. C'est absolument incroyable. Or, Daniel Obono, qui est quand même une figure de proue de la France insoumise, a dit, par exemple, qu'elle était indignée par l'interdiction des programmes de Dieudonné. Dieudonné qui avait fait venir Forisson, le maître du négationnisme, sur la scène du théâtre de la main d'or.
Me semble que c'était avant qu'elle soit élue députée.
Sur
des propos assez anciens, là, que vous...
Pas très anciens, mais toujours est-il
que... Avant qu'elle soit dans
mais ça fait partie, si vous voulez, des sujets... que prend en main la France insoumise. C'est une des raisons, en tout cas, pour laquelle la France insoumise déteste Manuel Valls. Il y a quelque chose de fou, quelque chose de très inquiétant dans cette animosité. En tout cas, mon grand regret, c'est de voir que la gauche social-démocrate, la gauche républicaine, s'est inclinée devant Jean-Luc Mélenchon dans l'espoir de sauver quelques circonscriptions. Il faudrait que les dissidents du Parti socialiste prennent leur courage à deux mains, notamment après ces dernières déclarations sur la police, et fondent un vrai parti social-démocrate. Il n'est pas bon que les électeurs de gauche n'aient le choix qu'entre Jean-Luc Mélenchon, qui se diabolise tout seul, et Emmanuel Macron.
Pierre.
Le ministère de l'Éducation nationale a été occupé pendant 5 ans par Jean-Michel Blanquer. Il est aujourd'hui dirigé par Pape Daye et vous semblez assez critique sur la désignation du nouveau ministre.
En tout cas, je ne supporte pas qu'on dise que les critiques adressées à Pape Ndiaye témoignent du racisme d'une partie de la société française. On ne supporterait pas qu'un homme noir accède à un ministère régalien. Non, il ne s'agit pas de cela. Et personne n'a raisonné en ces termes, même l'extrême droite. Il s'agit de renvoyer Pape Ndiaye à ses engagements, à ses travaux, à ses déclarations. Et c'est d'autant plus légitime que Pape Ndiaye est un intellectuel. Donc il ne parle pas à la légère, il ne dit pas n'importe quoi. Et Pape Ndiaye a dit par exemple que le racisme anti-blanc n'existait pas, était une pure légende. Et aussi, dans son rapport sur la diversité à l'opéra, il a dit que l'opéra européen, c'était le point de vue sublime des dominants et qu'il espérait que ce point de vue allait être rectifié dans le bon sens par les metteurs en scène contemporains.
Ça le disqualifie pas pour être ministre de l'Éducation nationale ? Si, ça le disqualifie.
Mais c'est embêtant qu'un ministre de l'Éducation nationale raisonne en ces termes parce que nous vivons dans un certain climat qu'on a défini comme un climat woke. Woke, ça veut dire en éveil. Et bien voilà, donc les éveillés pensent qu'ils savent tout. C'est une sorte de narcissisme du présent. Nous sommes sensibles.
Ça tombe bien, Pape Ndiaye a toujours pris ses distances à l'égard du wokisme d'une part, et il a réfuté l'idée de l'existence d'un racisme d'État en France.
Oui,
il a préféré
parler
de racisme structurel.
Ce
qui est très différent du racisme d'État, vous le savez.
Il a quand même dit, mais je ne suis pas attaché personnellement au mot woke, il a quand même dit que le danger dans les universités, ce n'était pas du tout le wokisme, c'était les groupes paramilitaires fascistes. Mais peu importe le mot, il y a une attitude qui se répand, c'est une attitude, si vous voulez, de dédain et même de soupçon vis-à-vis du passé. Les œuvres du passé, on les convoque. Donc, d'ailleurs, se multiplient les études de genre. Donc, vous allez donner à un étudiant, vous allez donner à lire Lucien Leven de Stendhal, un roman absolument merveilleux, et il va traquer les stéréotypes de genre. Or, c'est pas le rapport que l'humanisme nous a habitué à instaurer vis-à-vis du passé. L'humanisme de la Renaissance, c'est-à-dire, c'est l'idée que les textes classiques auront toujours quelque chose à nous dire, quelque chose à nous apprendre. Nous ne devons pas avoir ce rapport de surplomb, ce rapport de supériorité. Et là, il me semble que dans ce que Pape Ndiaye dit de l'opéra européen, il y a ce rapport de surplomb, et ce n'est pas compatible avec l'idée que je me fais de l'éducation en France, une éducation humaniste au sens que je viens de donner. D'où mon inquiétude. Mais là où, en effet, je dois m'arrêter, Pape Ndiaye a fait ses déclarations, il en est comptable, mais il n'en est pas prisonnier. Donc, évidemment, les choses peuvent changer, il peut au contraire s'astreindre à être très républicain. Cela étant, il est un partisan inconditionnel, là, pour le coup, de la discrimination positive.
Dont il a profité.
Non, justement.
Si.
C'est ça qui. Non, enfin, je sais pas. En
si,
tout cas,
si pour sa bourse aux États-Unis.
Il dit peut-être, mais pas en France. Il dit que c'est un produit de la méritocratie. Le mérite, c'est les temps modernes. C'est la modernité et notamment la révolution. C'est-à-dire, on remplace la naissance par le talent. la carrière ouverte au talent, disaient les révolutionnaires. Bon, parce que, voilà. Et maintenant, avec la discrimination positive, c'est la naissance qui fait son retour. L'origine, voilà.
On non, dit, c'est la naissance qui permet d'ouvrir les portes à un talent. Mais il faut que le talent existe. Hein,
oui, il faut qu'il existe. Et en tout cas, oui, mais ça crée, si vous voulez, un climat de ressentiment parce qu'il y a, on le voit aux États-Unis, des blancs majoritaires qui passent derrière des membres des minorités qui ne sont pas admis à l'université alors que leurs notes sont meilleures. Et ça peut favoriser le populisme dont peut-être nous parlerons tout à l'heure avec l'affaire Trump.
Marion. On en est encore loin. Alors Emmanuel Macron était hier en déplacement dans le Tarn. Il a été interpellé sur un autre sujet qui vous tient à cœur par une jeune femme. Regardez.
Vous nous dites que l'objectif principal de votre quinquennat, c'est l'égalité des femmes et la protection des femmes qui sont violentées. En attendant, vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les femmes. Pourquoi ?
L'égalité des femmes, j'étais là en train d'en parler. Parce que je suis pour la libération de la parole et je l'ai accompagnée et je continuerai de l'accompagner et de la protéger. En même temps, pour fonctionner en société,
oui, c'est avoir
de la présomption. Et,
égalité père-mère.
Monsieur le Président,
égalité père-mère.
Voilà, jeune femme qui fait référence à Gérald Darmanin, hein, qui a eu un non-lieu en début d'année, et à Damien Abad, accusé de violence sexuelle. Comment est-ce que vous réagissez à cette interpellation? Et comment est-ce qu'on peut concilier, justement, la libération de la parole des femmes et la présomption d'innocence?
Ben, il faut la concilier à tout prix. Je vous signale que Gérald Darmanin, qu'on pourrait critiquer sur sa gestion du Stade de France, et la cécité dont il a fait preuve, alors même qu'il était de préposé au réel dans son gouvernement. Là, c'est Eyes Wide Shut sur les violences, les vols à l'arraché, etc. Et sur leur origine. Donc, Gérald Darmanin a obtenu un non-lieu. Quant à Damien Abad, il y a quand même une difficulté, si vous voulez. Son aide-soignante l'a dit. Il a besoin d'être aidé pour tout. C'est-à-dire que sa partenaire ne doit pas être seulement consentante, elle doit l'aider. Il n'a pas les moyens physiques de violer. Et d'ailleurs, une de ses accusatrices, l'autre a voulu rester anonyme, dit qu'elle a effectivement fait l'amour avec lui et qu'elle l'a profondément regretté. Et ça, c'est un des thèmes qu'on voit apparaître. Moi, je n'ai aucune indulgence, je dis tout de suite, pour les agresseurs, et a fortiori pour les violeurs. Aucune.
Il n'aurait pas fallu le mettre à l'écart, le temps.
Mais
le temps de l'enquête.
Ce qui se fait dans les entreprises, on met à pied des hommes ou des femmes soupçonnés de harcèlement sexuel, moral, etc. Il y a une mise à pied, le temps que
la lumière soit faite.
Détermine les faits.
Oui, bien sûr. Mais il y a aussi autre chose aujourd'hui. Il y a une volonté d'émanciper la justice de la justice. C'est d'ailleurs ce que dit cette femme. Ces femmes sont accusées, ces hommes sont accusés. Et comme ils sont accusés, ils doivent être immédiatement mis à pied, voire condamnés. C'était l'un des objectifs dangereux de MeToo. L'accusation doit valoir condamnation. Et d'ailleurs, j'ai apporté ici le livre de Sabine Procoris, Le Mirage MeToo. C'est très intéressant. Ce sont des femmes qui ont alerté sur la dérive du mouvement. L'avocate Marie Dosé et la psychanalyste Sabine Procoris. Elles n'aiment pas voir, si vous voulez, des questions aussi délicates traitées de manière hyper politique, avec d'un côté MeToo, les femmes unies dans la faiblesse et la détresse, et de l'autre côté, des prédateurs interchangeables. Non, la gloire de la justice, c'est la recherche des cas particuliers. Il y a à chaque fois des singularités, et on ne veut pas les voir, et pire encore, on veut en quelque sorte en finir avec la présomption d'innocence. Dans le livre de Sabine Procoris, il y a une citation d'une des têtes pensantes du mouvement, Iris Bray, celle qui nous parle du male gaze, du regard masculin au cinéma. Pourquoi est-ce que la parole d'une victime qui parle aurait moins de valeur que la présomption d'innocence? Ne faut-il pas interroger en profondeur notre système judiciaire avant d'invoquer la présomption d'innocence si nous croyons les femmes? Autrement dit, la présomption d'innocence, pour ce qui concerne les femmes, serait un symptôme de l'ordre patriarcal. Non. Pas Pas du tout. C'est pas comme ça. Et la justice doit s'exercer, si vous voulez, avec implacable, de manière implacable, s'il le faut, mais elle doit s'exercer dans le cadre judiciaire, avec la présomption d'innocence, avec le contradictoire. Et d'ailleurs, on l'a vu avec, aux États-Unis récemment, avec l'affaire Sean Penn. Hein.
Donc il Johnny Depp et Amber Heard.
Non, pardon.
Johnny Depp et Amber Heard.
Je les confonds toujours.
Où on ne parlait que de diffamation et pas des faits réels. Vous restez avec nous parce qu'on a d'autres sujets à vous soumettre à la Finkielkraut. Et tout de suite, on vous le soumet.
Il a l'air fâché.
Au travers de
l'édito.
Il est concentré parce que c'est l'heure de son édito. Les Américains replongés dans le chaos de l'assaut du Capitole il y a un an et demi, la commission d'enquête de la Chambre des représentants a présenté hier soir, en direct, à la télévision, ses premières conclusions sur l'assaut du 6 janvier 2021.
Oui, c'était un grand show télévisé programmé à 20h locales, 20h sur la côte Est, sur tous les networks, un horaire très inhabituel. Pour une enquête parlementaire, le Watergate, c'était en journée, pour l'examen d'un événement qui a réellement fait vaciller la démocratie américaine. Les 9 membres de la commission qui ont entendu plus de 1000 témoins et consulté quelques 140 000 documents y ont mis toute la gravité et la solennité nécessaires. 3 phrases du chef de la commission, Benny Thompson, et de son adjointe Liz Cheney. Le 6 janvier a été le point culminant d'une tentative de coup d'État. Donald Trump, en convoquant la foule, en rassemblant la foule et en allumant la mèche de cette attaque, était au centre de ce complot qui a mis en danger 2 siècles et demi de démocratie constitutionnelle. Fin de citation. Et après le poids des mots, le choc des images avec des séquences inédites, jamais montrées de cet après-midi d'émeute.
There's probably about 300 Proud Boys. They're marching eastbound.
I am not allowed to say what's going to happen today, but it's going to happen. Something's going to happen.
T-Circle, breach the line. We need backup.
This is now effectively a riot.
49 hours declaring it a riot.
We have a breach of the Capitol. Breach of the Capitol.
Officers still remaining on the House floor, on the third floor, to use the subway themselves. It's time to evacuate so we can secure the members on the other side. Copy.
Whatever it takes, I'll lay my life down if it takes.
Absolutely. That's why we showed up today.
Voilà, c'est quelques extraits. On a remonté un film assez long et très, très évocateur, très impressionnant de cet après-midi du 6 janvier. Les scènes de guerre, a dit une policière qu'on entendra un peu plus tard, des scènes de guerre sous le regard satisfait ou moqueur de Donald Trump qui, en ce 6 janvier à la Maison-Blanche, a regardé tout cela à la télévision. 3 heures de laisser-faire. C'est son vice-président Mike Pence qui a donné l'ordre d'envoyer en renfort la garde nationale parce que les Pence, que les émeutiers appelaient à pendre, on vient de le voir. Ouais. Commentaire de Trump rapporté par des conseillers de la Maison-Blanche, il le mérite.
Donald Trump isolé au sein de sa propre administration.
Oui, c'est ce que montrent aussi les témoignages inédits divulgués hier soir dans sa propre administration et même dans sa propre famille, d'après ces témoignages. Ainsi, Ivanka, la fille de Trump, qui s'est dit convaincue par le ministre de la Justice, Bill Barr, que les accusations de fraude électorale était des conneries.
3 discussions with the president that I can recall made it clear I did not agree with the idea of saying the election was stolen and putting out this stuff, which I told the president was bullshit.
How did that affect your perspective about the election when Attorney General Barr made that statement?
It affected my perspective. I respect Attorney General Barr. So I accepted what he was saying.
Voilà, le père Donald Trump a dû apprécier. Oui.
Tout ça sous les yeux de millions d'Américains.
Alors, ils ont été 11 millions, on a regardé les audiences avec Christian Desplaces, ils ont été 11 millions à regarder cet événement en direct sur les trois grands réseaux, c'est-à-dire ABC, CBS, NBC, ce qui est important mais pas considérable. Hein, plus les téléspectateurs des chaînes d'information, CNN, MSNBC et Fox Business, tandis qu'au même moment, sur Fox News, regardez, c'est assez admirable.
And welcome to Hannity, and we start with the Fox News alert breaking tonight. We have all three major broadcast networks all happily broadcasting, well, the dullest, the most boring, there's absolutely nothing new, multi-hour Democratic fundraiser masquerading as a January 6th hearing. But make no mistake, tonight's so-called hearing is not in good faith. It is not an honest probe.
Sean Hannity sur Fox News. Alors, c'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de télé qui prend l'antenne pour dire, il se passe un truc ce soir, c'est diffusé chez tous nos concurrents, mais ne regardez pas, ça va être chiant et malhonnête, donc restez chez nous. Et moyennant quoi, Fox News a passé 2 heures de sa soirée à diffuser une sorte de vérité alternative, quoi, pour dire les choses par leur nom.
Bonsoir, Corentin Célin.
Bonsoir.
Professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur pour l'excellent site d'information Les Jours. Je reprends les mots que vous avez cités hein, du président de la Commission, le démocrate Benny Thompson. Cette sombre journée fut le point culminant d'une tentative de coup d'État. Ce terme de coup d'État, Corentin Célin, c'est la première chose et la chose essentielle de ce qu'il faut retenir hier.
Oui, bien sûr, c'est historique. Alors évidemment, on avait des informations durant toute l'année. On a appris au fur et à mesure des auditions de la Commission les informations qu'ils avaient pu recueillir et ce qui se dessinait déjà, c'était effectivement d'abord de la part du président Trump une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir, de refuser les résultats d'une élection par ailleurs parfaitement légale, comme l'a dit d'ailleurs son ministre de la Justice. Et par ailleurs, le 6 janvier même, une insurrection dont on a vu les images, une insurrection factieuse menée par des groupes, on le sait aujourd'hui, en particulier les Oath Keepers et les Proud Boys, qui sont des groupes fascisants, des milices fascisantes d'extrême droite radicale. Et donc, hier, il y a une sorte de synthèse. Voilà, c'était une tentative de coup d'État, puisque je rappelle quand même, il faut rappeler pourquoi il y a cette insurrection, parce qu'ils marchent sur le Congrès où ce jour-là, sous la direction du vice-président Mike Pence, ont décompté le vote des grands électeurs pour officialiser le résultat de l'élection. Donc c'est bien une interruption délibérée d'un processus démocratique, d'une procédure démocratique et légale, et donc c'est bien une tentative de coup d'État.
Avec un seul bémol qui a été relevé hier soir, évidemment, c'est qu'on est frappé par ces scènes de violence, scènes de guerre, mais il n'y avait pas d'armes à feu. Ils se sont pénétrés dans le Capitole sans armes à feu.
Aux États-Unis, où on voit à quel point le port d'armes est assez simple.
Oui. Alors effectivement, il y a encore des questions. De toute façon, ce qui est frappant aussi hier, de manière générale, c'est qu'il reste encore beaucoup de questions. Il y a encore 5 sessions de cette commission.
Et notamment le lien entre Trump et les émeutiers.
C'est toute la question. C'est pour ça que j'ai séparé les deux. Est-ce qu'il y a un lien direct? Est-ce qu'il y a pu avoir une coordination? Ou est-ce que c'est simplement des émeutiers incité par la parole de Trump, mais Trump, il n'a cessé de le répéter, aura beau jeu de dire, mais moi, je ne les ai pas appelés directement à faire ça. Ils ont fait ça de leur propre chef. Mais ce qui était intéressant, c'est que hier, la session s'est terminée avec des témoignages d'émeutiers qui disaient, on l'a fait parce qu'il nous a demandé de le faire. Oui, mais ça, c'est eux ce qu'ils pensent, eux.
C'est leur interprétation.
C'est leur interprétation, c'est toute la subtilité.
Ce qui est avéré, c'est que Donald Trump n'a jamais demandé l'intervention de la garde nationale. Quoi. Ça, c'est...
Oui, alors, ce qui est avéré aujourd'hui, ce qui est complètement ahurissant quand on y pense, c'est que, un, il s'est réjoui de manière ostensible que ces émeutiers veuillent pendre son propre vice-président. Enfin, il faut quand même. Je veux dire,
il le mérite.
Oui, on est chez les fous. Enfin, là, on est chez les fous. C'est quand même son vice-président avec lequel il a partagé 4 ans le pouvoir, avec lequel il a fait campagne. Bon, bref. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, et ça, c'est très important, il n'appelle pas, il y a une forme de déréliction du pouvoir, il n'appelle pas de ses fonctions, il n'appelle pas pour appeler la garde nationale au secours, justement, pour arrêter, pour freiner les émeutiers. Et là, on a véritablement un abandon de fonction. Et c'est intéressant, parce qu'on a appris aussi que, pour la première fois, dans son gouvernement, autour de Mike Pence, le président, dans les jours qui ont suivi, ils ont évoqué un 25e amendement, section 4, c'est-à-dire la possibilité de destituer le président précisément parce qu'il il ne serait plus en état d'assumer ses fonctions. Et c'est vraiment simplement la question qu'on peut se poser. Est-ce que ce jour-là, Donald Trump a assumé ses fonctions telles qu'elles sont définies par la Constitution? Et de toute évidence, non. Je finis sur ce dernier point.
Oui.
Le problème, c'est qu'il a déjà été jugé pour ça. Il a été jugé pour un impeachment, je vous le rappelle, pour incitation à l'insurrection. Il a été acquitté par le Sénat. Et donc, ce sera très dur, de toute façon, d'envisager une autre action judiciaire contre lui.
Pierre, et vous pourrez réagir.
Une membre, on l'a vu dans les images qu'a montré Patrick, une membre de la commission a imprimé sa marque, la républicaine Liz Cheney. Non seulement elle est très critique vis-à-vis de Trump, mais sa méthode chirurgicale peu spectaculaire fait très mal.
Did not really want to put anything out, calling off the riot or asking his supporters to leave. You will hear that President Trump was yelling and, quote, really angry at advisors who told him he needed to be doing something more. And aware of the rioters' chance to hang Mike Pence, the president responded with this sentiment, quote, maybe our supporters have the right idea. Mike Pence, quote, deserves it.
Elle est engagée depuis des mois dans cette démarche. Elle est très précise, elle est devenue pestiférée au sein du Parti républicain.
Absolument, il faut savoir qu'elle joue sa survie politique en ce moment même, puisque en primaire au Wyoming, l'État dont elle est représentante, elle est défiée par un candidat qui est investi par Trump, soutenu par Trump et tous les Trumpistes. Et donc elle joue littéralement sa survie politique, et Trump a fait de son, excusez-moi l'expression, de son scalp politique, sa plus grande satisfaction à venir, donc ce sera cet été, cette primaire. Et donc, là, en quelque sorte, d'une part, elle brûle ses vaisseaux, hein, puisque bon, elle montre que, comme elle l'a dit, elle préfère son pays à son parti, et que elle a dit aux Républicains, vous savez, quand Donald Trump sera parti, si vous continuez à le soutenir comme ça, il ne restera plus que votre déshonneur. Et donc, elle a choisi, voilà, la nation plutôt que le déshonneur, c'est du moins ce qu'elle dit. Ensuite, il ne faut pas être naïf non plus, c'est aussi une bataille sur la ligne politique. Liz Cheney, c'est tout sauf une progressiste, une conservatrice très, très, très dure, fille de l'ancien vice-président, mais qui est une conservatrice en politique étrangère, plutôt néo-conservatrice, favorable à l'interventionnisme extérieur, contrairement à Trump, et qui est donc une conservatrice traditionnelle, et qui aussi se bat contre la diffusion du Trumpisme, c'est-à-dire cette forme de national-populisme qui veut transformer le Parti républicain en parti national-populiste, en quelque sorte. Et donc, il y a aussi une bataille, j'allais dire, sur la ligne et sur la domination à l'intérieur du Parti républicain.
Juste un mot sur ce que disait Patrick à propos du blackout de Fox News. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a encore toute une partie de l'Amérique qui soutient toujours Donald Trump ?
Mais c'est aussi une des limites, et Patrick le rappelait avec les audiences. C'est qu'on voit dans les sondages que de plus en plus d'Américains disent, d'une part, bon, allez, c'est bon, le 6 janvier, l'insurrection du Capitole, c'était il y a 18 mois, il y a l'inflation, on a d'autres préoccupations. Et il y a un sondage NBC il y a quelques jours qui montre pour la première fois, il y a une majorité d'Américains qui ne jugent pas Trump principalement responsable pour cette insurrection. Il n'y a plus que 45% qui le jugent totalement ou en partie responsable. Donc on voit bien que l'opinion publique et les Républicains, alors les Républicains, il faut le rappeler majoritairement, eux, ils sont convaincus que l'élection lui a été volée, que cette insurrection, c'était des patriotes gentils qui venaient réclamer leurs droits démocratiques. Donc, d'un certain point de vue, il a déjà en large partie gagné auprès des Républicains.
Alain Finkielkraut.
Oui, il faut le rappeler que ce qui a motivé cette invasion terrifiante, c'est la conviction que les élections avaient été volées.
Oui.
C'est ça. Et donc, on peut dire que l'insurrection du 6 janvier a installé la hantise du complot au cœur de la démocratie américaine et qu'elle a consacré aussi le naufrage des conventions. Disant cela, je cite Rana Levy dans son très beau livre « Le chaos de la démocratie américaine ». Mais j'ajoute qu'en face, vous avez l'Université de Californie qui qualifie de micro-agression raciste l'affirmation que l'Amérique est la terre des opportunités. Land of opportunity. Pourquoi dis-je cela ? Parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, deux démences idéologiques s'affrontent et se nourrissent l'une l'autre dans une surenchère sans fin. Le Trumpisme et le wokisme. Et j'espère que la France ne connaîtra pas le même destin. Je l'espère et j'en suis plus ou moins convaincu parce qu'il y a chez Trump un phénomène qui n'existe pas en Europe et pas en France, c'est l'absence totale de surmoi. Donc ça, on ne voit ça chez aucune personnalité politique.
Il
n'empêche que les Américains, c'était « we the people », nous le peuple, et la division de la société américaine est aujourd'hui très, très inquiétante.
Vous restez avec nous, Corentin Célin, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, la belle histoire d'un jeune bachelier ce soir.
Oui, c'est ça. Lui, c'est Jonathan Kikanga. Il a 18 ans, il est en terminale au lycée Dupuis de l'Homme à Brest. Cette année, il a eu 17,5 de moyenne, quand 936 000 lycéens et étudiants espèrent avoir un vœu exaucé de formation sur Parcoursup. Jonathan, lui, a eu ses 25 vœux validés.
Je n'attendais pas ça. Quoi.
Vous attendiez à quoi alors?
Bah, avoir une réponse, quoi. Une ou deux réponses, mais pas 25. J'étais super content, je ne vais pas dire que j'étais pas content parce que je ne m'y attendais pas. Je savais que j'allais avoir des réponses de vœux que j'ai fait parce qu'il y a les entretiens.
Ses résultats sont incroyables, mais le plus fou chez Jonathan, c'est son parcours de vie. Il arrive en France en 2019 seulement. Il se retrouve seul dans la rue, sans domicile fixe. Sa maman est décédée, son père vit en Angola. Dans la foulée de son arrivée en Bretagne, une association brestoise repère ce mineur isolé. Jonathan va être alors scolarisé. Ses notes impressionnent. Il enchaîne les 17 en mathématiques. Ses professeurs ne sont pas si surpris par ses 25 vœux validés.
On l'a prévenu, on lui a dit qu'il risquait d'être pris partout, mais c'est vrai qu'on avait, on disait ça un petit peu sur le ton de la boutade avec lui. Mais c'est vrai que ces 25 vœux, tous acceptés, ça nous a quand même surpris, et agréablement surpris, je dois dire.
Le fait de mettre ça en lumière, en effet, ça va montrer aussi que cette filière, au-delà de Jonathan, est une filière aussi qui peut porter et peut aboutir à l'excellence, comme a réussi Jonathan. Donc en effet, c'est une... ça peut être un exemple pour l'ensemble des élèves.
À son arrivée au lycée de Brest, il bluffe l'équipe pédagogique par sa capacité à retenir ses leçons, par sa mémoire. Certains de ses professeurs disent même qu'ils n'ont jamais vu un élève aussi brillant. Quand on lui demande la recette magique de sa réussite, Jonathan Kikanga ne parle pas de lui, mais de ses proches et des associations qui l'accompagnent.
J'ai vu aussi quelques facilités, mais j'ai beaucoup appris ici. Mais j'ai cherché à comprendre à chaque fois, et ça m'a aidé. Mon travail personnel aussi, et chez moi aussi, les gens avec qui je suis entouré, ils sont bienveillants, ils m'aident à chaque fois quand j'ai des difficultés.
Aujourd'hui, Jonathan est encore sans papier. Il a dû justifier par deux fois son statut de mineur isolé, son espoir, une régularisation.
L'association qui m'aide dans le démarche administrative m'a conseillé d'attendre d'avoir de bons résultats et d'essayer de faire pour voir si ça pouvait jouer à ma faveur. Et là, je pense que ce serait le moment de faire la demande.
Bon, on a quand même demandé ce qui était le plus compliqué dans sa formation à Jonathan. Pas de surprise, c'est l'apprentissage du français.
C'est le français qui était un peu plus compliqué en secondaire, ouais.
Pourquoi?
Oui, bah, c'est le français, quoi. C'est compliqué, on est d'accord. c'était hyper, hyper compliqué de maîtriser, par exemple, la grammaire et tout. J'étais obligé à chaque fois de chercher un dictionnaire et de faire des recherches à chaque fois que je veux écrire une phrase et de demander aux gens si c'est au féminin ou au masculin.
Des difficultés qui ne l'ont pas empêché d'avoir 15 et 17 aux oraux et écrits du bac français. On aimerait bien avoir les mêmes complications, les mêmes difficultés dans la vie. En tout cas, Jonathan Kikanga a dû faire un choix dans ses 25 vœux exaucés sur Parcoursup. Une grande école, il ira à l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon avant de devenir, on lui souhaite, un grand ingénieur.
Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Mathieu.
T'es venu comment?
À pied.
Hommage ce soir au reporter de BFM TV, Frédéric Leclerc.
Oui, le journaliste de BFM tué en Ukraine alors qu'il couvrait le conflit, victime d'un éclat d'obus dans le Donbass. C'était le 30 mai. Son corps était rapatrié cette semaine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un moment de recueillement était organisé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Et ce soir, la chaîne Info rend hommage au reporter de guerre de 32 ans. Sa famille, ses collègues et Reporters sans frontières ont appelé à un rassemblement qui se tient en ce moment même, place de la République à Paris.
Il remplissait sa mission, filmer
des opérations d'évacuation de civils, voulant fuir cette zone aussi dangereuse que le Donbass. En d'autres termes, il a payé son travail de sa vie. Nous sommes réunis aujourd'hui, au lendemain du retour en France de son corps, pour rendre hommage à ce journaliste brillant, passionné, engagé, bienveillant.
Les collègues de Frédéric Leclerc-Imoff, nos confrères de BFM TV, sont nombreux à ce rassemblement, venus lui rendre un dernier hommage public.
La rédaction de BFM TV est en deuil. On pleure un journaliste passionné, engagé. Donc, Frédéric m'avait écrit un mail juste avant sa première mission pour souhaiter que son statut de pigiste ne soit pas un handicap pour partir couvrir l'actualité là où elle se passait. Il voulait raconter l'histoire en direct.
Voilà pour cet hommage à notre confrère auquel on s'associe. À deux jours du premier tour des élections législatives, on attend une abstention record. On en parlait avec Alain Figueroa.
Vous en parliez, Patrick l'avait évoqué mercredi aussi. Tous les instituts de sondage le disent. Alors sans rentrer dans le détail, ce matin nous sommes rendus à Stain, en Seine-Saint-Denis. Une des communes qui a le moins voté à l'élection présidentielle. 39% d'abstention au premier tour, 49% au second. Louis Amar et Audrey Payas ont simplement demandé aux habitants sur place s'ils iront voter, voire même s'ils savent ce qui se passe dimanche.
Monsieur, est-ce que vous savez ce qui se passe dimanche ?
Oui, dimanche, on a élection législative.
Je ne sais pas du tout.
C'est l'élection.
Oui, les élections législatives.
Vous savez à quoi elles servent, ces élections ?
À nominer le nouveau gouvernement.
Est-ce que vous allez aller voter, vous, monsieur ?
Non, ça ne m'intéresse pas, la politique.
Je ne vote pas.
Ça ne vous intéresse pas ?
Je regarde la politique, je regarde les trucs, mais je ne vais pas voter.
Voter ou pas voter, c'est la même chose.
Nous, on aimerait bien voter, on aimerait bien s'exprimer. Mais pour qui ?
Vous irez voter ?
J'irai voter. C'est pas un privilège, c'est un droit. Il faut que ça reste un droit.
Parce que c'est un droit.
Je pense que ça va être pire. Parce que c'est pas tout le monde qui est au courant et c'est pas le même enjeu, en fait, on va dire.
Alors certains se mobilisent et tentent d'éveiller la fibre citoyenne des abstentionnistes, notamment une ONG A Voter qui a monté un partenariat sur le sujet avec le gouvernement et des entreprises privées. Alors on a vu par exemple des stands de cette association en festival le week-end dernier, ça c'est le festival parisien Wheel of Green, mobiliser, sensibiliser les plus jeunes en particulier. Le partenariat inclut aussi, plus amusant, le site de covoiturage Blablacar qui publie des appels au vote. Allons faire un premier tour, lit-on sur leur page Instagram, au lieu d'allons faire un tour tout court. La légende dit même, dimanche, ne prenez pas un Blablacar, sauf pour aller voter. Il y a d'autres initiatives. Je voulais vous parler du partenariat entre l'ONG A Voter et les cinémas MK2. Au début des séances, vous voyez ce qui est affiché entre les bandes annonces et le film. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone, ça c'est classique, mais aussi, n'oubliez pas d'aller voter dimanche, avec rappel des dates du scrutin. Anaïs Recouli s'est rendue au cinéma, a sondé les spectateurs de la séance sur cette initiative.
C'est important d'avoir une information, surtout qu'on a beaucoup, enfin il y a beaucoup d'élections là, il y a les présidentielles qui sont enchaînées. Honnêtement, je pensais pas que les législatives allaient venir si vite.
Je pense que c'est bien de pousser les gens à s'intéresser à la politique et à voter.
L'idée est bonne, mais là franchement, j'ai pas vu grand chose.
J'ai trouvé ça un peu étrange. Après, ça rappelle bien les dates et je me dis que c'est peut-être bien pour effectivement pour les jeunes peut-être aussi.
C'est bien de rappeler aux personnes et peut-être d'avoir même plus d'informations sur les candidats ou autrement, grâce à d'autres spots comme ça.
Même sur Tinder, je crois, ils avaient mis des petites pubs pour aller voter. Enfin, il y en a vraiment un peu partout. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu une farce. Voilà.
Vous allez voter ?
Oui. Non.
Ben voilà, c'est partagé, mais on a convaincu Alain Finkielkraut.
Ah oui,
voilà. Il va voter.
C'est à vous, refait de moi un citoyen exemplaire.
Eh bien voilà.
Pour l'honneur.
Non, mais le pire n'est jamais sûr. Hein, tant que
bien sûr.
Tant le scrutin n'est pas clos, on peut toujours voter. Et beaucoup de gens, je le disais il y a deux jours, se décident au tout dernier moment. Il y a un réflexe consumériste aussi avec ça. Donc, les chiffres de participation ou d'abstention qui sont annoncés par les instituts de sondage ne sont pas forcément ceux qu'on aura dimanche à 20h.
Ni les intentions de vote. Voilà. Après le jubilé de la reine, des nouvelles de la famille royale ?
Avec une initiative étonnante d'un héritier de la couronne, le prince William, parmi les sans-abri. Vous connaissez peut-être l'itinérant ou Macadam en France, des journaux français vendus par des SDF dans la rue ou les transports et qui traitent de leurs problématiques. L'équivalent anglais pour les sans-abri outre-Manche, vous le voyez, c'est The Big Issue. Eh bien, le petit-fils de la reine, Elisabeth, a été vu en plein cœur de Londres, habillé comme les vendeurs de The Big Issue, veste et casquette rouge. Parmi eux, sans effet d'annonce, l'information est passée en fait par les badauds et les réseaux sociaux. Ceux qui l'ont croisé en tout cas sont ravis.
I think he's a great prince, literally. I'd have to say he's the people's prince. To be out here firsthand on the streets, dealing with people.
It was like I was looking at him. Why did you just not recognize? So
yeah, I'm disappointed with myself of not seeing him. It's like, I think it's one thing in a lifetime.
I was excited. I bought only one issue. I really have it in my hands. He doing his mission with open heart, the same attitude like I was thinking about Princess Diana.
Le prince William, membre le plus populaire de la famille royale après la reine, qui va fêter ses 40 ans le 21 juin prochain.
On passe d'un prince à un roi, un bruit qui court autour de Zinedine Zidane.
Va-t-il signer pour entraîner le PSG ? Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la réponse à cette question, que l'on a entendue partout ces dernières heures dans les médias français comme espagnols. Regardez.
Zinedine Zidane serait tout proche d'un accord avec le club du Paris Saint-Germain.
Zidane estuvo en un beach club de Ibiza, hablando más de una hora. Con Marco Verratti, joueur du PSG.
Zinedine Zidane au PSG, c'est presque fait.
Attention, proche d'un accord, ça peut encore ne pas se faire.
Zinedine Zidane au PSG, ce serait évidemment un rêve.
J'ai reçu une llamada de Qatar. Ils m'ont dit que Zidane, si, que s'est compromis avec le PSG.
Zidane sur le banc du PSG, voilà quelques jours, voire semaines d'ailleurs, que ça bruisse. En Espagne, un journaliste sportif du Mundo Deportivo l'a affirmé hier soir sur Twitter. La radio RMC l'a laissé entendre dans la foulée et depuis, c'est le feu dans les médias spécialisés sur les réseaux sociaux. Certains affirment que c'est fait, d'autres que c'est en discussion, en négociation. Alors Mohamed, je vais profiter de vous avoir sur le plateau puisque vous connaissez très bien ces périodes de mercato dans le foot. Zizou à Paris, on y croit, c'est plausible ?
Oui, c'est plausible. Ce que je peux vous dire, c'est que cet après-midi, j'ai eu des dirigeants du Paris Saint-Germain au téléphone qui m'ont expliqué qu'il n'y avait pas d'accord avec le PSG, avec Zinedine Zidane, mais que ça discutait. On m'a démenti aussi un accord dans l'entourage de Zinedine Zidane. Oui, il y a des discussions, oui, c'est plausible, mais pour l'instant, ce n'est pas encore signé.
Vous n'avez pas eu d'appel du Qatar ?
Non, je n'ai pas eu d'appel du Qatar.
En tout cas, Zinedine Zidane de retour en France, ce ne serait pas pour déplaire à Emmanuel Macron.
Je n'ai pas parlé à Zinedine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur, et on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc moi, je souhaite pour le rayonnement du championnat français, pour la France, qu'ils reviennent et qu'ils viennent entraîner un grand club français. Ce serait formidable.
Alors Mohamed, on a beaucoup dit que Kylian Mbappé prenait le pouvoir au PSG. Ça ferait deux stars de deux générations de bleus, deux champions du monde dans le même club. Au final, c'est qui le patron ?
Depuis quelques mois, au Paris Saint-Germain, les patrons, c'est Messi et c'est Neymar. Dans quelques semaines, peut-être que ça va changer. Kylian Mbappé est devenu la star en prolongeant au Paris Saint-Germain. Avec Zidane et Mbappé, ce serait le duo fort du Paris Saint-Germain. Je vous raconte juste une anecdote en quelques secondes. En 2014, Kylian Mbappé a 14 ans. Il va à Madrid, il va signer au Real Madrid. L'homme qui le reçoit, c'est Zinedine Zidane, qui est à l'époque directeur du centre de formation et directeur sportif du club. Et donc, dans la voiture, Kylian Mbappé dit « Excusez-moi, je peux retirer mes chaussures ?» Zinedine Zidane et lui dit non, c'est pas grave, gardez-les, vous êtes dans ma voiture, vous êtes en lieu sûr.
C'est et son vous idole, ses
c'est
chaussures.
Son idole absolu. Et les deux hommes, s'ils se retrouvent à Paris, ça sera une aventure magnifique entre les deux. Et si Mbappé reste aussi au PSG, c'est peut-être qu'il a eu des garanties.
Ah, et voilà, explication. Un commentaire de 20 secondes. Vraiment,
20 secondes,
10
écoutez,
secondes.
Je ne suis pas président de la République, donc je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions.
Ah, merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Je rappelle qu'on peut vous écouter sur France Culture à 9h07, réplique
demain.
Le samedi. Exactement. Merci, cher Corentin Célin. Dans un instant, spécial Portugal, c'est la fête nationale là-bas,
et
le 14 juillet. Et vive la Morue, vive le Portugal, Lio Tony Carreira et la star du 20h au Portugal depuis 30 ans. Voilà pour nos invités. À tout de suite, on vous attend. Est-ce que j'ai été coupée ?